Mémoire vive,
présentée par Ève Cheftel
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ.
Nous avons le grand honneur et le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Serge Klarsfeld. Vous venez de publier chez Fayard Flammarion vos mémoires, écrites à quatre mains avec votre épouse Beate et qui sont déjà un grand succès. Chacun peut découvrir ou redécouvrir votre rôle exceptionnel dans la reconnaissance par la France de ses responsabilités propres dans la Shoah, et en particulier cette fameuse rafle du Veldiv, dont nous allons cette semaine commémorer le 73e anniversaire. Jeudi aura lieu à 18h la cérémonie officielle que vous organisez tous les ans au métro Bir Hakeim. À ce propos, vous travaillez un mur des enfants qui devrait être inauguré l'année prochaine, rue Nélaton, à l'emplacement donc de l'ancien Veldiv, où figureront les noms des quelques 3000 enfants arrêtés lors de cette rafle et déportés après leur internement dans les camps de Pithiviers et Bonne-la-Rolande. Cette question des enfants est centrale pour vous, qui avez œuvré toute votre vie à mettre un nom, une adresse, un visage sur les 11 000 enfants déportés de France et à faire reconnaître le statut des enfants qui ont survécu mais dont les parents ont été assassinés à Auschwitz-Birkenau. Vous êtes vous-même un de ces enfants orphelins de la Shoah et vous racontez dans votre livre, pour la première fois, je crois, cette arrestation de votre père qui a été si douloureuse pour vous. L'une des chances de votre vie, dites-vous, je vous cite, c'est que votre père a été arrêté non par des policiers français mais par des Allemands de la Gestapo. Alors qu'est-ce que vous entendez par chance? C'est dans les premières pages de votre livre.
D'abord, je voudrais rectifier, il n'y avait pas 3000 enfants, il y avait 4000 enfants, 4115 enfants exactement, qui ont été arrêtés et qui se sont retrouvés au vélodrome d'hiver, et la très grande majorité d'entre eux a été déportée. En ce qui concerne la chance d'avoir eu les Allemands à ma poursuite plutôt que les policiers français, ça me paraît évident parce que les autres enfants, presque tous les enfants juifs qui ont perdu leurs parents, ont vu arriver des policiers français. Et moi, j'ai vu arriver la Gestapo. Je ne l'ai même pas vu, je l'ai entendu. Si ça avait été les Français, je ne pense pas que je serais resté en France. Même comme enfant, j'aurais souhaité partir parce que de rencontrer des policiers tous les jours et que ces policiers, ces mêmes policiers ou ces mêmes uniformes aient pu contribuer à la solution finale de la question juive, m'aurait révolté comme enfant et je n'aurais pas supporté le fait de vivre dans un pays où j'aurais tout naturellement attribué la responsabilité première à ceux qui sont venus arrêter. Et il est évident que moi j'ai eu les Allemands, c'était une guerre entre la France et l'Allemagne. Je n'ai pas souffert, je dirais, à la France. Et je ne savais même pas à l'époque d'ailleurs que les policiers français arrêtaient les Juifs, puisque à Nice, les Italiens qui étaient, disons, qui avaient le pouvoir entre novembre 42 et septembre 43 n'arrêtaient pas les Juifs, et qu'ensuite les Allemands n'ont pas demandé à la police française, et la police française était aux ordres d'un préfet qui, lui, a été déporté, M. Chéniaud, la police française n'a pas coopéré à l'arrestation des Juifs. Donc je n'étais au courant qu'après la guerre. Les derniers mois de la guerre, je les ai passés en Haute-Loire, où, d'une part, la police française n'arrêtait pas. Dans les communes, j'étais dans un village qui s'appelait Saint-Julien-Chapteuil, on ne demandait pas aux gens s'ils étaient juifs quand ils s'installaient, ce qui était notre cas. Et troisièmement, il n'y avait pas de Gestapo en Haute-Loire, et le colonel allemand qui commandait était un enseignant qui ne s'intéressait pas à la question juive, et le fait de ne pas s'y intéresser était déjà extraordinaire, et donc il n'arrêtait pas les juifs en Haute-Loire. Voilà donc la situation que j'ai vécue au cours de laquelle, je dirais, pendant ces deux années où les enfants juifs ont été poursuivis, c'est-à-dire de juillet 42 à août 44, Je n'ai pas eu à craindre une arrestation par la police française. Voilà. Donc c'est une chance, parce que je n'en ai pas voulu à la France, alors que beaucoup de ceux qui ont perdu leur famille et qui ont réussi à survivre, bien, en voulaient à la France et examiner leur parcours avec le poids de ce qui était arrivé, c'est-à-dire l'invasion dans leur vie et dans leur domicile d'uniformes français qui avaient saccagé leur vie.
Et pourtant, vous avez, avec une persévérance admirable, vous êtes battu pour faire traduire en justice aussi bien les responsables allemands de la solution finale en France que les responsables français, aussi bien Lischka, Hagen que Barbie, enfin pour les Allemands, et côté français, Touvier, Le Guay, Touvier, Papon.
Oui, parce que le bilan de la solution finale, le bilan de la solution finale en France, vu son côté, je dirais, sinistre, fatal, pour 80 000 personnes, on le doit à la complicité de Vichy avec les dirigeants de la solution finale. Il est évident que les dirigeants de la solution finale allemands étaient les principaux coupables à nos yeux, puisque ce sont eux qui ont organisé, eux qui ont voulu, eux qui ont demandé à Vichy les forces de police et l'administration préfectorale pour arrêter les Juifs. Et donc, ils sont au premier chef responsables. Donc, on s'est d'abord battu pour les faire juger. Et puis, en constituant leur dossier, en amassant les documents, on s'est rendu compte de l'ampleur de la complicité du gouvernement de Vichy. Et il a fallu également modifier la perception que les Français avaient du sort des Juifs pendant la guerre.
Quelle était cette perception
C'est une perception en 1970, quand on a commencé à s'y intéresser. Les Français avaient oublié que les Juifs avaient essentiellement été arrêtés par la police française et se souvenaient, je me rappelle même, notre boucher, que je connaissais bien et qui me disait... je me souviens de la rafle du Veldiv, comment les Allemands jetaient les enfants dans les camions. Il n'y a pas eu d'Allemands pendant la rafle du Veldiv. Ce qui fait que même ceux qui avaient vu ou qui avaient cru voir une rafle, eh bien, pensaient que c'était les Allemands.
Vous voulez penser
que c'était les Allemands. Alors, je me suis dit, à la fin du siècle, Pétain sera réhabilité à la fin du siècle si on ne met pas en lumière cette complicité, et une complicité qui était gigantesque et qui ne se trouvait dans aucun livre d'histoire. On a analysé les manuels scolaires d'histoire, pas un mot sur le rôle de Vichy, le rôle d'arrêter les Juifs, pas un mot sur les milliers d'enfants de la rafle du Veldiv et les autres enfants arrêtés au cours d'autres rafles. Pas un mot sur le fait que la France est le seul territoire d'où sont partis en 1942 10 000 juifs de la zone libre où il n'y avait pas d'Allemands. Ils sont retrouvés à Auschwitz en partant d'un territoire où il n'y avait pas d'Allemands. Et tout cela n'était pas dans les livres, dans les manuels scolaires.
Et justement, vous avez, votre rôle d'historien, il est tout aussi important que votre rôle de... on va dire, de justicier au bon sens du terme, enfin, d'avocat aussi. Et on peut rappeler que vous avez été l'un des premiers à écrire l'histoire de Vichy, notamment avec Vichy Auschwitz 1942. Et la conclusion que vous reproduisez dans vos mémoires fait écho à votre propre histoire, puisque je me permets de la lire, vous dites « Les Juifs de France garderont toujours en mémoire » que si le régime de Vichy a abouti à une faillite morale et s'est déshonoré en contribuant efficacement à la perte d'un quart de la population juive de ce pays, les trois quarts restants doivent essentiellement leur survie à la sympathie sincère de l'ensemble des Français ainsi qu'à leur solidarité agissante à partir du moment où ils comprirent que les familles juives tombées entre les mains des Allemands étaient vouées à la mort. Ça, c'est resté aujourd'hui dans l'opinion. On ne peut plus penser l'un sans l'autre. On ne peut plus
tout
penser...
À fait. Et d'ailleurs, le 16 juillet,
c'est votre à la contribution, fois
un,
le mot est faible.
Un hommage aux justes, d'abord c'est un hommage aux victimes et un hommage aux justes de France. Mais pour moi, le terme juste de France, c'est l'ensemble de la population française et pas seulement ceux qui ont pu établir qu'ils avaient sauvé un juif en particulier. Il ne faut pas oublier que les rapports des préfets qui sont arrivés au chef du gouvernement de Vichy ne disaient pas « un tel a défendu les Juifs et un tel a défendu les Juifs ». Ils disaient les Français ou les gens du département du Lot protestent en disant que Vichy a sacrifié l'honneur de la France, etc. Ce sont des termes comme cela et ça exprime l'opinion des Français, pas l'opinion simplement de quelques... éléments de
cette
population.
Comme le
monde
votre propre exemple, puisque vous avez été donc caché à Saint-Julien-Chapteuil
non,
par un village entier,
Non, nous-mêmes n'avons pas particulièrement été... On a eu un ami qui nous a aidés, qui s'appelait Pierre Merly, qui est devenu ensuite maire d'Antibes, et nous l'avons fait un des premiers juste dans les années... au milieu des années 70, oui. Mais je dirais que bon, c'est l'ensemble des Français qui mérite ce titre de juste, surtout si on compare avec le reste de l'Europe. Bon, il y a un pays, l'Italie, qui à peu près a eu les mêmes réactions que les Français. Les Français, je pense, c'est surtout le côté chrétien modéré et républicain, qui les valeurs de la République et les valeurs de la chrétienté. Modérés, ils n'étaient pas des fanatiques comme sous l'Inquisition, ils étaient modérés et la charité chrétienne s'est appliquée aux Juifs.
Pour revenir à Vichy Auschwitz 1942, donc, qui est paru au printemps 1943, qui est donc un livre majeur, sur le plan, on va dire, historiographique, là je m'adresse vraiment à l'historien, en quoi cette œuvre, pour vous, fait date par rapport à ce qui a pu être publié auparavant?
Auparavant, j'attendais avec impatience le livre de Marius et Paxton, Vichy et les Juifs, et il est paru en 79, je crois, et, ou 80 en France, ou 81, et j'ai été déçu, parce que moi, constituant les dossiers des criminels, préparant le procès de Cologne, qui est le procès des organisateurs, ayant tous les documents du centre de documentation à ma disposition, j'ai constaté qu'ils avaient écrit leur ouvrage avec tout ce qui avait été publié jusque-là, et qu'il leur manquait beaucoup de documents pour maîtriser chronologiquement le développement de la solution finale, l'évolution de la solution finale. Comment ça s'était passé? Il y a des chapitres très intéressants, des points de vue très intéressants, mais il manquait beaucoup de choses. Je prendrais simplement un point, c'est le transfert de 10 000 juifs de la zone libre vers la zone occupée. Il n'y avait rien là-dessus, pratiquement. Mais ce n'est pas leur faute, hein, parce que c'est simplement que les archives étaient fermées, c'était des coffres-forts, les archives publiques étaient fermées.
Ces coffres que vous aviez d'une certaine façon contribué à forcer, pour les procès, pour le besoin des procès, il fallait, vous le racontez bien avec Béate, il fallait constituer des dossiers d'accusation, obtenir des preuves, des originaux, vous racontez comme vous... par exemple pour le téléx, le fameux téléx de Barbie
pour le procès de Barbie et que j'envisageais à cette époque.
Il le fallait absolument pour pouvoir inculper Barbie.
J'envisageais le retour de Barbie et je m'y appliquais. Mais en même temps, je savais qu'il fallait des documents et je suis parti à la recherche de ce téléx. Et miraculeusement, donc, le président de la République m'a donné un feu vert pour toutes les archives, ce qui fait que j'ai ouvert les archives sans trop de difficulté. La difficulté, c'était d'obtenir cette autorisation en raison de l'action que nous avions menée, Béat et moi, au nom de la France, et aux archives nationales. Je me suis fait ouvrir beaucoup d'archives et j'ai pu reconstituer la solution finale à l'aide de documents qui n'étaient pas disponibles, accessibles aux autres historiens. Donc l'histoire, c'est de découvrir, c'est comme un archéologue qui découvre...
Mais peut-être que vous, par rapport aux autres historiens, vous étiez guidé par un souci de justice, mais vraiment de faire justice, de traduire devant la justice... Et que ça vous a donné peut-être l'opiniâtreté de, voilà, de découvrir ce document, bon, de les produire. Parce que c'est rare d'avoir des historiens qui sont à la fois avocats.
La spécificité était effectivement que je jouais le rôle avec Béat de justicier, chasseur de nazis, et en même temps j'étais historien. Mais historien, je considérais qu'il était beaucoup plus important d'écrire l'histoire de la solution finale en France, ce qu'est Vichy Auschwitz, parce qu'il y avait un deuxième tome, et de donner les documents au public, à tout le monde. Pas simplement d'écrire en me basant sur les documents, mais que les gens aient les documents sous les yeux, traduire les documents allemands, et donner tous les documents français qui avaient une importance, de façon à ce que le lecteur puisse se forger son opinion. Et c'était deux très gros ouvrages. Mais, comment dire, la spécificité, c'est que j'étais historien et que j'ai considéré qu'il y avait beaucoup plus d'importance à écrire cette histoire qu'à préparer une plaidoirie. C'était évident, donc...
Juste le telex, parce qu'on n'en a pas parlé, on n'est pas allé jusqu'au bout, donc c'était bien le telex que Barbie avait signé ordonnant la rafle du Dizieux, hein, de la maison Dizieux.
Non, pas ordonnant, mais faisant le bilan de la rafle Dizieux, disant voilà, la rafle du home d'enfants Dizieux a eu lieu, il y a eu tant d'enfants, il s'est même trompé sur le nombre d'enfants. Il en a mis un peu moins parce qu'il a cru que les plus âgés étaient des moniteurs. Le fait de dresser ce bilan montrait qu'il en avait été l'instigateur.
Parce qu'il fallait des preuves. Alors, votre autre, on va dire, grande œuvre, c'est le mémorial de la déportation que j'ai sous les yeux. Vous l'avez dit, je ne suis pas seulement chasseur de nazis, je suis surtout chercheur des âmes juives disparues dans la Shoah. Cette œuvre à laquelle on vous associe le plus spontanément, donc, que vous venez de republier en l'actualisant et en le complétant, et ce n'est pas fini, vous dites d'ailleurs c'est votre tonneau des Danaïdes. À quelle nécessité répondait pour vous cet ouvrage, le premier mémorial rappelez-nous la date de parution.
En 1978. C'était tout simplement parce que je ne me voyais pas plaider et accuser les instigateurs les organisateurs de la solution finale en France, et sans les noms des Juifs qui avaient été victimes de leurs agissements. Il était possible ou impossible de faire un pareil bilan, et si tous les documents avaient été détruits, mais c'était pas le cas, je savais que c'était pas le cas, donc je m'y suis attelé avec des amis, des gens qui sont venus autour de moi, des amis d'amis, et puis qui sont devenus nos amis, les fils et filles des déportés juifs de France, c'est-à-dire des gens qui avaient perdu leurs parents et qui ont avec nous travailler, c'est-à-dire je donnais par exemple une liste, mais les listes étaient c'était des papiers pelures, c'était compliqué comme tout, mais disons je donnais une liste à une personne ou un couple et une boîte à chaussures et des bristoles, des cartons Bristol, un millier de cartons pour la plupart des convois, et les gens dressaient nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nationalité numéro du convoi. Mm-hmm. Bon, c'était le premier, voilà, le premier mémorial a été fait comme cela, d'une façon tout à fait artisanale.
C'est l'acte de naissance, en quelque sorte, des fils et filles des déportés.
Bah, c'est la
France,
naissance des
fait,
fils et filles, oui.
Et c'est là où votre action, parce qu'au départ, vous êtes quand même très seul. Hein,
non, c'est pas l'action. Les fils et filles, il y en avait qui partaient avec nous.
Oui,
les gens qui partaient avec nous pour
très
manifester.
Vite, ouais.
Et il y avait des gens qui ont travaillé avec nous à faire adresser ces listes. Et puis après, ceux qui agissaient, ceux qui travaillaient, sont devenus les fils et filles des déportés juifs de France. Voilà. On s'est créé en association avant le procès de Cologne, de façon à pouvoir mobiliser le plus de parties civiles. On en a eu plusieurs centaines. Et c'était un crime de masse, on ne pouvait pas arriver avec quelques parties civiles. Donc on est arrivé avec des centaines de parties civiles et avec les 80 000 noms des victimes de la solution finale en France.
Ça a été un véritable choc, hein, vous racontez la publication,
oui,
de ce mémorial.
En France, oui, ça a été un choc. Et d'ailleurs, vous voyez bien le rôle que joue la mémoire depuis cette époque.
Un choc pour les...
La communauté juive française, le CRIF, par exemple, se sont, concentrés autour de leur mémoire.
Il y a un très beau texte de Vladimir Yankelevitch, là, que vous citez, un article, oui, dans le Nouvel Observateur. J'ai malheureusement pas le temps de le lire, mais... Oui, voilà, il rend l'hommage à ce travail particulièrement aride, mais qui revêt une importance morale exceptionnelle, dit-il. La personne humaine porte un nom, et elle est un être humain par ce nom qui la désigne, et voilà. Et c'est le travail que vous avez fait de redonner nom à...
Et je l'ai parachevé avec le nouveau mémorial de 2012, puisque le premier était par convoi et par ordre alphabétique, mais les gens cherchaient les noms des membres de leur famille, et c'était pas facile à trouver. Et il y a beaucoup d'homonymes, beaucoup de prénoms déformés, etc. Et là, et puis les gens ont été déportés, les familles ont été séparées, le père est parti par un convoi, la mère par un convoi, les enfants par un ou plusieurs convois, tandis que avec le nouveau mémorial, vous avez les familles qui sont rassemblées grâce aux adresses d'arrestation.
Mmh. Oui, vous avez été longtemps vice-président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et vous avez repris la présidence de la commission Mémoire et Transmission. Pour vous, l'avenir de la mémoire, si on peut dire, passe-t-il par les institutions comme le Mémorial de la Shoah et la Fondation pour la mémoire de la Shoah ?
Oui, je pense que l'avenir de notre mémoire dépend des institutions, surtout des centres de documentation, et puis de la documentation qui circulera et que chacun pourra avoir d'ailleurs chez soi concernant la Shoah. Ce sera très difficile, même pour des régimes totalitaires, de détruire cette mémoire, ces documents. Impossible, on pourra détruire les documents originaux, les copies survivront, etc. La fondation, elle est garante parce qu'elle finance la principale des institutions qui est le mémorial de la Shoah. Non, j'ai pas d'inquiétude particulière pour l'avenir de la mémoire de la Shoah, quoi qu'il se passe sur le plan politique. Je ne peux pas répondre à la place des uns et des autres, et je ne peux pas donner de conseils, sauf que s'il y a une vague importante, il faut essayer d'éviter d'être submergé.
Merci Serge Klarsfeld. Donc, je rappelle le titre de votre livre, qui s'appelle « Mémoire », tout simplement, paru chez Fayard Flammarion. Et j'en profite pour annoncer que le 13 juillet vous sera remis le prix Pétrarque du Monde et de France Culture. Ah, c'est à Paris ou c'est...
À Montpellier.
À Montpellier, voilà. Merci encore.
Merci à vous.
Prochain.
C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive au pluriel.net. À dimanche prochain.